Les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bonjour et bienvenue dans l'émission cinéma de Fréquence Tête, les écrans suspendus. Comme vous le savez, nous vous présentons chaque semaine un film que nous avons hâte de voir avec vous sur grand écran, dès que les salles obscures seront réouvertes, bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons du film français le plus attendu de l'année, qui s'appelle Kaamelott premier volet, écrit et réalisé par Alexandre Astier, qui s'inscrit dans la continuité de la série télévisée diffusée entre 2005 et 2009. Il doit constituer le premier volet d'une trilogie et nous avons jusqu'à présent eu différentes dates de sortie et maintenant le film est repoussé au 25 novembre. À mes côtés, j'ai Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Mathieu.
Salut, salut.
Et nous commençons donc avec Olivier pour reprendre un petit peu la légende du roi Arthur, ses inspirations littéraires et cinématographiques.
Oui, j'ai été frappé là en regardant un petit peu autour de Kaamelott du nombre incalculable de d'histoires plus ou moins légendaires, plus ou moins réelles, qui ont donné lieu ensuite à des écrits, soit des feuilletons écrits, soit des romans, qui ensuite ont été portés à l'écran, que ce soit le grand ou le petit écran. Je pense au Mystère de l'Ouest, Azuro, Mission Impossible, Chapeau Melon, la botte de cuir. Bon, je vous épargne la liste, c'est interminable. Et bon, du fait de ma formation archéo, histoire, littérature, et goût pour l'image, j'étais frappé de ces trois niveaux et dans les relations entre ces trois arts, enfin ces trois domaines, d'une certaine manière, on connaît à peu près tous les sens de circulation. Alors bien sûr, du point de vue archéologique et historique, Kaamelott, ben c'est la celtitude bretonne, qui a une très grande emprise temporelle, hein, ça va de l'Antiquité au Moyen-Âge. Hein. Ce sont des peuples gaulois qui s'organisent en aristocratie militaire jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est une culture absolument splendide. Moi, j'ai réellement sous les yeux l'univers des formes de Gallimard sur les selles que j'ai un peu feuilleté cet après-midi, et c'est une culture, une esthétique, une symbolique, une spiritualité tout à fait extraordinaire et tout à fait exotique pour le reste de la Gaule. Bien sûr, c'est une civilisation qui était marquée essentiellement par l'oralité, hein, c'est-à-dire que nous n'avons de ces peuples que des histoires qui se sont transmises oralement de personne à personne. Alors, du point de vue de l'écrit, alors on est dans une situation qui est extrêmement fréquente, à savoir que on a un éloignement historique et géographique considérable entre la culture dont je viens de dire deux mots et le passage à l'écrit, puisque le passage à l'écrit, bon, si vous voulez, la culture, moi je vous en parlais jusqu'à peu près le 6e siècle de notre ère, il faut attendre le 12e siècle, hein, essentiellement bien sûr avec Chrétien de Troyes, pour pouvoir apparaître à l'écrit sous forme finalement d'une sorte de série de romans, hein, la légende arthurienne. Alors, on est dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec le contexte breton celte de la période concernée réellement, hein, puisque on est à l'époque de l'amour courtois. Chrétien de Troyes, comme son nom l'indique, ben il est de Troyes, c'est-à-dire en Champagne, c'est-à-dire qu'il est à la cour de Marie de France, grande poétesse française. On loue donc l'amour courtois, on loue les aventures chevaleresques, et surtout intervient une chose qui n'est pas vraiment présente chez nos Celtes, c'est l'idéal chrétien de la croisade et du Graal. Donc on change complètement de culture, hein, et de véritablement géographiquement et historiquement, on est quand même à plusieurs siècles de distance. C'est comme si moi, sur une base orale, m'avisait de raconter l'histoire et les voyages de René Descartes. Voilà, bon. Le passage à l'image, lui, est absolument extraordinaire. Moi, j'ai compté pas moins de 46 films d'animation et séries qui sont nés de cette légende arthurienne. Et je me suis amusé, je ne sais pas ce que ça vaut, à classer ces images, finalement, en trois grandes catégories. Il y a des séries et des films qui se donnent pour relativement réalistes. Bon, je dirais que là, autant pour le passage à l'écrit que pour le réalisme-là, il faut mettre beaucoup de guillemets, parce qu'il y a évidemment des intentions et des cultures qui n'ont rien à voir avec la culture. Il y a ensuite, bon, les héroïques fantasy qui, elles, sont construites pour faire rêver, et donc là, le réalisme, bon, on se moque, et évidemment, c'est pour faire rêver. Et puis, on a, et là, on en vient donc à Kaamelott, une autre option qui est la dérision. On voit même ça dans Shrek, par exemple, et là, le but, bah, c'est quand même aussi beaucoup de faire rire, et de s'appuyer, finalement, sur l'éloignement géographique et historique comme ressort comique supplémentaire. Hein, évidemment, on travaille l'écart, enfin, etc. Et en général, ça marche très bien. Je voulais juste terminer en disant que, d'ailleurs, un historien dont je ne retrouve pas le nom disait que certains films, bah, comme ça, bah, dérisoires ou même d'heroic fantasy, j'en fais pas, étaient parfois, ne rendaient parfois plus proches des histoires originelles. Alors, voir Kaamelott pour en dire.
Oui, et justement, Olivier, si tu as fini, c'est pour rebondir sur Kaamelott, c'est né dans la tête d'un certain Alexandre Astier, aujourd'hui qui n'est plus trop à présenter, parce qu'il s'est fait connaître justement grâce à sa série Kaamelott, mais pas que. C'est un humoriste, un acteur, réalisateur et même compositeur, et est originaire de Lyon. Donc, par exemple, dernièrement, il a co-réalisé les films d'animation Astérix, le domaine des dieux, en 2014, et Astérix, le secret de la potion magique, parce que c'est un très grand admirateur d'Uderzo et Goscinny. Et voilà, donc on ressent très bien ce côté humoristique qui lui va très bien à Alexandre Astier. Donc voilà, ce sont des œuvres où il a pu s'éclater. Je conseille ces films à tout le monde. Et donc, comme je disais, Alexandre Astier s'est fait connaître dans les années 2000 en jouant dans des pièces de théâtre, par exemple Le Jour de Froment, où Nous crions grâce est déjà... Ces pièces étaient écrites par Jacques Chambon, qui d'ailleurs maintenant joue le rôle de Merlin l'Enchanteur dans Kaamelott. Et Alexandre Astier, même si on ne connaît pas ses œuvres, il est aussi connu notamment dans la sphère Internet, YouTube, etc., parce que c'est un homme qui aime donner son avis, et d'ailleurs des fois très tranchant. Il aime démonter des théories du complot, par exemple, ou il aime aussi parler de, pour lui, ce qu'est l'inspiration artistique. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui influence beaucoup de personnes, et le monde artistique également. Et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Kaamelott. Kaamelott, qui à la base est une série télévisée qui a commencé en 2005 et qui s'est terminée en 2009. Alors, c'est très particulier de parler de Kaamelott parce que c'est une série qui a évolué dans le temps, que ce soit par rapport au format. Au début, c'était 3 minutes par épisode, puis 7 minutes, pour ensuite arriver en 2009 à 42 minutes par épisode. Et ce n'est pas seulement le format qui a changé, c'est aussi le ton. Parce que au début, on parle de quelque chose de très humoristique qui devient au fur et à mesure dramatique. Et Kaamelott, du coup, qu'est-ce que cela raconte? Et bien, en fait, c'est justement ce qu'Olivier, voilà, Olivier a fait l'introduction avec ça, c'est les légendes arthuriennes Les Chevaliers de la Table Ronde, La Quête du Saint Graal. Et tout ceci est raconté, comme je disais, avec beaucoup d'humour, donc c'est très décalé. Par exemple, il y a un décalage qui est très drôle par rapport au langage employé dans la série. On a des situations anciennes avec le langage de tous les jours, ce qui crée un décalage, ben voilà, qui d'ailleurs peut faire passer plusieurs propos. Et aussi des critiques de la société actuelle, bien sûr, mais aussi de la bêtise humaine, bah, qui est si inspirante, voilà, comme on le sait. Et au fur et à mesure, donc, cette série a pris et est partie bah, du petit feuilleton de 3 minutes à une véritable histoire hein, touchante et dramatique. Et c'est pour ça que ce film qui va sortir au cinéma amorce la conclusion de cette histoire, voilà, comme disait Cathy. C'est la première partie de... Donc, il y aura 3 films au total. Donc, ce sera le premier film. Et c'est pour ça qu'on a très hâte de voir, vu l'évolution artistique de la série, de voir ce que Alexandre Astier va nous proposer au cinéma. Peut-être, Cathy, tu voudrais un peu compléter mes propos sur la série.
Oui, je crois que tu as raison d'insister sur le côté du langage en fait qui est utilisé dans la série. C'est, je pense que ce qui plaît aux gens, en tout cas moi c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est ce langage contemporain en fait qu'Alexandre Astier utilise et mêle astucieusement avec des expressions du vocabulaire moyenâgeux et puis un vrai franc-parler populaire. Des insultes, de l'argot très imaginatif, et c'est ce qui rend toute la saveur en fait. Enfin, c'est ce qui est savoureux dans la série. Et pour rebondir sur ce que disait Olivier, avant que le film sorte, puisqu'on a pas mal de temps, si les gens n'ont jamais vu Monty Python Sacré Graal. Qui est sorti en 75, qui est classé comme film le plus drôle de l'histoire du cinéma, profitez-en parce que voilà, on a encore un peu de temps avant le mois de novembre pour se replonger dans la légende du roi Arthur. Est-ce que vous voulez ajouter des petites choses?
Moi, j'avais juste un petit clin d'œil si notre bien-aimé réalisateur le père, j'étais pendant que j'écoutais Mathieu en particulier et parler du goût que Astier a pour Astérix, il se trouve que pas plus tard qu'il y a 2 heures, là, j'étais penché sur la répartition des sites archéologiques celtes en Europe, quoi. Et vous avez au niveau effectivement de la pointe Finistère une concentration et ça fait irrésistiblement penser au dernier village qui résiste à l'invasion romaine et historique. Ça me faisait vraiment rigoler de voir cette espèce de concentration. On peut pas s'empêcher de penser au village d'Astérix et Obélix, quoi. Historiquement, ce qu'on appelle les Armoricains. Voilà.
Ok, très bien. Alors bon, vous l'avez compris, Alexandre Astier nous fait patienter depuis. Il fait patienter ses fans depuis 10 ans parce que il a tout de suite dit qu'il y aurait un film de cinéma qui sortirait. Donc il met du temps. Ça fait déjà 10 ans que la série est terminée. Nous avons différents rebondissements quant à la date de sortie de ce film qui était annoncée au 16 octobre. Tout ça, évidemment, c'était avant le problème du Covid et le confinement. Finalement, il avait avancé cet été au 29 juillet, donc nous réjouissions tous de la sortie de ce film pour l'été. Et puis, malheureusement, et on peut le comprendre, au vu des enjeux financiers et autres, évidemment, le film est reporté au 25 novembre. Donc, voilà. On espère et on est même persuadé que le travail qui va être fait sur ce film et le temps qu'il a pris pour le faire sera forcément de la qualité. Nous n'en doutons pas. Du coup, les garçons, nous ne sommes pas mis d'accord sur le film de la semaine prochaine. Nous y réfléchirons dans les jours prochains.
Entendu.
Parce que je ne sais pas quoi annoncer du coup. Donc voilà, mais il y aura forcément. On a matière. On a pas mal de films importants à venir, donc ce sera la surprise pour nos auditeurs la semaine prochaine.
De toute façon, c'est toi la tôlière.
Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, merci Olivier, merci Mathieu, et à la semaine prochaine.
Et merci Sylvain.
Merci.
Ciao, ciao.